Bonjour à tous. Les ados m'ont demandé, pendant cette prédication, d'aborder le sujet de la pauvreté, les pauvres, les orphelins, les délaissés, les étrangers. Nos jeunes nous encouragent et nous demandent qu'on les soutienne, que l'on s'engage envers eux. D'autres nous ont donné cet encouragement avant eux, d'autres le feront après. Mais pourquoi ? Pourquoi soutenir les pauvres ? Est-ce biblique ? Je crois que les différents versets lus depuis le début du culte par nos ados, que ceux qui sont affichés au mur, nous montrent que oui, c'est biblique. Dieu veut que nous venions en aide aux pauvres. Alors, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Prendre soin des pauvres ne remplace pas l'annonce de l'Évangile. La Bible, prise dans son ensemble, est claire sur ce sujet. Ce sont deux choses à faire en parallèle. Aider et évangéliser, évangéliser et aider. Mais revenons à notre question. Pourquoi Dieu veut-il que nous aidions les pauvres? C'est une question intéressante parce que Dieu ne nous demande jamais de faire des choses sans nous expliquer pourquoi. Il nous connaît, il sait que nous passons beaucoup plus facilement à l'action lorsque nous avons compris pourquoi c'était important, lorsque nous comprenons pourquoi le faire. Et afin de trouver... de regarder la réponse à cette question, je vous propose de lire avec moi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 15, les versets 7 à 11. Deutéronome, chapitre 15, à partir du verset 7. S'il y a chez toi un pauvre parmi tes frères, dans l'une de tes villes, dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu ne t'entêteras pas et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi de tenir un raisonnement sans morale en te disant « La septième année, l'année de la remise, approche de regarder d'un œil mauvais ton frère pauvre et de ne rien lui donner. » Il invoquerait le Seigneur contre toi et ce serait un péché pour toi. Donne-lui, et que ton cœur ne soit pas mauvais quand tu lui donneras à cause de cela. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, le pauvre ou le déshérité, qui est dans ton pays. Ce passage nous parle de lutte contre le surendettement. La loi, transmise par Moïse, ordonne que tous les 7 ans, on efface les dettes. Ainsi, si on décidait de mettre en place cette loi aujourd'hui, on effacerait toutes les dettes en 2021, puis en 2028, puis en 2035, etc. Et du coup, juste avant cette remise de dette générale, le riche hésite. S'il prête, il a moins de chances d'être remboursé que s'il prête en début de la période de 7 ans. Et c'est à lui que ce passage s'adresse. Donne-lui. Et que ton cœur ne soit pas mauvais quand tu lui donneras à cause de cela. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, le pauvre, le déshérité, qui est dans ton pays. Ouvre ta main. Aide le pauvre. Voilà pour l'ordre que donne Dieu, mais dans ce passage, Dieu donne aussi une piste pour comprendre pourquoi le faire, pourquoi soutenir les pauvres. À cause de cela, le Seigneur ton Dieu te bénira. À travers l'aide aux pauvres, le Seigneur veut nous bénir. Quelle bénédiction l'aide aux pauvres peut-elle bien engendrer? Il faut d'abord préciser ce qu'est une bénédiction. Trop souvent, on parle de bénédiction comme d'une récompense. Récompense que Dieu donne à ceux qui respectent ses commandements. Mais une telle façon de voir conduit à une théologie des œuvres. La bénédiction n'est pas une monnaie d'échange utilisée par Dieu. Si je fais, il donne. Il faut également comprendre que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement pour maintenant. Elle prend tout son sens plus tard. Elle prend tout son sens à la fin des temps, lors du retour du Christ. Donc, Dieu nous demande d'aider les pauvres et par là, il nous bénit. Nous pouvons discerner trois bénédictions ou approbations du Seigneur lorsque nous aidons les pauvres. Et la première bénédiction que nous pouvons discerner, c'est celle de l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité de nous mettre à la place des plus pauvres. Ce n'est pas seulement avoir de la sympathie pour eux, d'imaginer leurs émotions. Il s'agit de s'identifier avec les personnes. Nous ne sommes pas simplement à côté des personnes les plus pauvres, nous sommes avec elles. Dans l'aide aux plus pauvres, comme dans tout ce que nous faisons, il faut garder en tête que nous ne le faisons pas comme un devoir chrétien. Ça, c'est du légalisme. Cet engagement en faveur des pauvres n'est pas motivé par le devoir, ni même par le désir de suivre la volonté de Dieu. Nous sommes motivés par la reconnaissance. La reconnaissance nourrie d'un cœur pardonné. Cette reconnaissance tournée vers Dieu nous conduit ensuite à nous tourner vers les autres, y compris les plus pauvres, par empathie, par association. Car nous aussi, nous avons été pauvres. Nous avons été pauvres dans le salut, manquant d'espérance, sans espérance dans le monde. Ainsi, notre soutien en faveur des pauvres qui sont, d'une manière ou d'une autre, exclus, devient une bénédiction. Non seulement parce que Dieu approuve notre lutte contre cette forme d'injustice, mais elle est aussi une bénédiction qu'elle nous rappelle constamment que Dieu lui-même a eu une telle empathie pour nous, qu'il s'est fait chair, qu'il est devenu homme. Et par là, il a montré tout son amour en donnant jusqu'à sa propre vie. L'empathie divine, démontrée dans le ministère du Christ, devient alors le modèle de notre vie chrétienne. Voilà une première bénédiction, être appelé à refléter pour les autres le modèle d'empathie qui nous a été donné par le Christ. La deuxième bénédiction se découvre en méditant ce rappel fait au peuple d'Israël. C'est dans le Lévitique, « Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous avez été des étrangers en Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Venir en aide aux pauvres et aux étrangers montre que nous sommes, encore aujourd'hui, nous-mêmes étrangers dans le monde. Nous sommes des pèlerins, Et même si le peuple auquel nous appartenons, le corps du Christ, est un peuple spirituel, nous sommes étrangers et nous sommes solidaires dans notre pèlerinage avec ceux qui sont étrangers au sens matériel du terme. Se rappeler que nous sommes pèlerins nous conduit à vivre dans la confiance en Dieu, avec simplicité et contentement. Et c'est une bénédiction. Cela nous rappelle que nous ne pouvons rien en dehors de la présence, providence et souveraineté de Dieu. Cela nous rappelle, comme le souligne Jacques Ellul, que les biens matériels sont vains face à la nature éphémère de la vie humaine. Cela nous rappelle que nous sommes ou avons été tous pauvres, au moins spirituellement, et que quelle que soit notre position sociale ou professionnelle, oublier cela, eh bien, c'est petit à petit placer notre confiance dans nos biens plutôt que dans la grâce divine. Nous sommes pèlerins, et un pèlerin soutient et aide les autres pèlerins qu'il croise sur sa route. Il est étranger dans ce monde, mais c'est précisément parce qu'il est étranger aux valeurs de ce monde qu'il peut venir en aide aux autres dans ce monde librement et sans réserve. Se rappeler cela est une bénédiction, car cela nous engage à nous mettre au service des autres avec humilité, compassion et charité. Mais nous pouvons aussi voir une troisième bénédiction venant de l'aide que nous apportons aux pauvres. Nos engagements sociaux doivent être motivés par la certitude que, quelle que soit notre pratique de la justice, il n'y a qu'un seul juste. Un seul qui soit parfaitement juste, c'est Dieu lui-même. Et Dieu viendra un jour rendre la justice. Cette conviction est en soi une bénédiction. Un jour, toute personne devra rendre compte de ses œuvres et Dieu rendra sa justice. Toutes les œuvres seront dévoilées. Alors, avant de nous réjouir, faisons une courte pause pour nous demander: Dieu est-il partial? Quelqu'un de partial, c'est quelqu'un qui prend parti, qui a choisi un camp et qui donc n'est plus objectif, n'est pas juste. Il serait trop facile de croire qu'en disant que Dieu va rendre justice, son jugement sera toujours en faveur des croyants. Parce que Dieu n'est pas partial. Il montrera donc sa justice en dévoilant même nos manquements, nos mauvaises décisions. Tous nos péchés seront mis en pleine lumière et Dieu fera justice aux œuvres de chacun. Dieu fera justice contre moi, à tous ceux envers qui j'ai été injuste, blessant. Il leur fera justice contre nous lorsque nous aurons préféré nous conformer à la société plutôt que prendre la défense de l'étranger et ceux qui n'ont rien. Certes, cela ne remet pas en cause le salut, qui est acquis parfois seul, mais Dieu jugera toutes les actions des humains. Cela signifie qu'il y a une double bénédiction pour celui qui pratique la justice. D'abord, il y a une réelle bénédiction, attachée à l'espérance de la justice finale. C'est bizarre de considérer le jugement final comme une bénédiction. Et pourtant, l'accomplissement parfait de la justice, c'est l'une des grandes aspirations de ce monde déchu, dans lequel règne la corruption et l'exploitation. Annoncer cette justice ultime de Dieu, c'est à la fois un argument que nous pouvons utiliser lorsque nous annonçons l'Évangile, mais aussi une motivation pour nous de pratiquer la justice. Et puis la pratique personnelle et communautaire de la justice est une bénédiction, car nous recevons et nous recevrons l'approbation de Dieu, de celui qui est juste et bon. C'est ce que le CNEF nous encourage à faire, le CNEF dont nous faisons partie. La solidarité envers les plus faibles et la protection de leurs droits sont les attitudes demandées par Dieu à son peuple pour faire face à la pauvreté. L'Église aura soin de manifester cette solidarité active. Cette troisième bénédiction, attachée au soutien des plus pauvres, est certainement la plus importante. En effet, elle renforce notre façon d'annoncer l'Évangile en montrant que la justice dépend uniquement de Dieu. Elle soutient et façonne notre propre justice. Elle nous conduit à l'adoration de celui qui viendra accomplir toute chose, qui rendra une justice parfaite, qui fera venir ce royaume dans lequel il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Notre engagement en faveur de ceux qui sont matériellement ou socialement les plus pauvres est un engagement parallèle à notre engagement en faveur de ceux qui sont spirituellement pauvres. Les plus petits dans nos sociétés sont un défi bénédiction lancé aux églises. L'opportunité nous est donnée de montrer notre attachement à la Bible dans son ensemble, dans l'intégralité de son message. Et c'est aussi une espérance d'entendre un jour la glorieuse approbation divine nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. » Les deux engagements, évangélisation et action sociale, témoignent de l'action de Dieu dans l'histoire du salut, de son action en vue de la restauration finale que nous attendons. Ces deux engagements sont source de bénédiction, d'approbation divine. Ces bénédictions ne sont cependant pas celles que nous attendrions. Elles sont la démonstration de l'amour de Dieu, la confiance en Dieu, la manifestation de la justice intégrale de Dieu. Tout cela, nous le rendons visible lorsque nous sommes avec ceux qui sont dans le besoin matériel, social ou spirituel. C'est une des raisons pour laquelle nous devons aider les pauvres. Rendons-nous donc disponibles. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.